Texte qui est inventé par M. Pache, tête de liste, il semble avoir une fuite d'assez grande importance. Donc, sans que ce soit une redite, j'espère, j'aimerais dire encore pourquoi l'argument que M. Page fonde sur ce verset me semble, quant à moi, ne m'avoir un petit peu plus aucun poids, et j'aimerais que nous voyons à la fois une question de méthode, des critères utilisés, si le sentiment que j'ai, qui est très fort, peut être partagé ou non. Je voudrais éviter d'imposer mon point de vue à ce soit votre choix parmi nous. Sachez bien que vous avez fait dessus pour M. Pache, plutôt que moi, dans cette affaire. Mais il me semble que pour que nous travaillions d'une manière rigoureuse, il vaudrait la peine d'échanger nos sentiments, d'échanger nos avis à propos de la valeur même des arguments. Quels sont les critères que l'on peut employer? Alors, dans la lettre à l'Église, au chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 10, le Christ, dans sa gloire, comme il l'Église, parce que tu as gardé la parole de ma patience, mon endurance, moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui vient sur tout le monde agité pour tenter les habitants de la terre, pour éprouver, de tenter ou éprouver. Et alors, M. Page, donc, tire de ce verset, comme les autres tenants de l'interprétation pré-publique tribulationniste, l'idée que l'Église reçoit ici, l'Église des derniers temps, la promesse d'être enlevée avant l'heure de la grande tentation, c'est-à-dire l'heure de la grande tribulation, et ainsi de ne pas se trouver sur la terre à ce moment-là. Alors, mais les arguments qui me paraissent, quant à moi, si totalement je le pense, réduire à néant cet argument, suggestion de M. Pache, sont les suivants. En gros, je résume à deux. Le premier argument, c'est que cela est dit à l'église de Philadelphie, qui est une église du 1er siècle de Jésus-Christ, père chrétienne, et que cette église de Philadelphie n'a en tout cas pas été enlevée. Que le Seigneur a gardé de la tentation qui venait pour elle et pour tout le monde habité de l'époque, dans le temps. C'est pas encore ici, mais qu'en tout cas, elle n'a pas été enlevée. Si on prétend, comme le font certains interprètes, que cette église de Philadelphie représente aussi une église de la fin des temps, une idée qu'on peut envisager. Mais il reste que l'église de Philadelphie, elle n'a pas été enlevée. Et qu'on ne peut pas donc donner au verset le sens d'un enlèvement pour cette église de la fin des temps qu'elle serait censée représenter. De toute façon, il est incertain que cette église de Philadelphie représente une église de la fin des temps, c'est quelque chose qui n'est pas évident ni dans le texte, ni pas prouvé autrement, mais même si c'était le cas, puisque l'église de Philadelphie n'a pas été enlevée, on ne peut pas donner à cette promesse le sens d'un événement. Pour que on puisse donner à cette promesse le sens d'un événement, pour l'église de la fin des temps, il faudrait que pour l'église de Philadelphie aussi, il y ait eu un événement. Voilà le premier argument que j'emploie. Si pour fonder une doctrine, on emploie un argument qui ne touche pas directement le sujet, qui concerne une église, qui, en premier lieu au moins, qui vit dans une autre période, et qui n'a pas été enlevée, il me semble qu'il ne reste pas chose que l'argument en cause. Le deuxième argument que je fais valoir, en critique donc, de la suggestion que M. Bach nous fait, c'est que le langage ne signifie pas l'enlèvement, que l'expression « garder de » avec cette préposition « ec » qui peut signifier « hors de » dans notre contexte, mais qui ne le signifie pas avec le verbe « garder » dans aucun exemple que l'on propose, que le verbe, l'expression « garder de » ne signifie pas « enlever ». C'est un autre verbe qui est employé. D'ailleurs, dans le verset même, il y a volonté de jouer sur ce verbe « garder », car « garder la parole » de ma patience, je garderai. Le dictionnaire que j'ai encore consulté, le dictionnaire du Nouveau Testament que j'ai très dit protéger, il a protégé. Protéger de. Et l'autre verset biblique où cette formule se retrouve, garde des œuvres, avec la même réposition qu'ici, mais en Jean 17, donc c'est l'autre verset, en Jean 17, qui est dû à la plume du même auteur, c'est très simple, c'est censé être le langage, exclut certainement l'idée d'un enlèvement. Dieu, que Jésus dit à son père, traduction que je vous donne de la prière sacerdotale, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Alors l'expression garder d'eux est la même qu'ici. Et elle est précisément opposée par Jésus à l'idée d'un enlèvement. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Alors il me semble que nous pouvons tirer de cette comparaison, de l'autre exemple de l'usage de ce verbe avec cette préposition dans le testament, que le verbe avec cette préposition n'habite pas du tout l'idée d'enlèvement. Alors, cette parole qui nous est donnée ici, a un langage tel qui n'habite pas l'enlèvement, grammaticalement, et d'autre part, il est dit à une église dont nous savons qu'elle n'a pas été enlevée. Alors, je ne vois pas ce qui reste de la forme de l'argument que nous sommes de baser sur ce texte. Voilà donc ma façon de raisonner. Je dis assez brutalement, parce que je me suis dit, peut-être que je n'ai pas dit assez brutalement la dernière fois mon sentiment sur ce point, mais je voudrais maintenant que vous disiez si ça vous paraît pertinent ou non, et si ça ne vous paraît pas pertinent, que nous voyons ensemble quels sont les critères qu'on peut employer pour interpréter bien un verset, pour tirer un argument d'un texte, comme ici. Monsieur.
Voilà. Je pense que le deuxième argument que vous avancez a beaucoup plus de poids que le premier, se base sur l'enlèvement, parce que le verset s'adresse à l'Église de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire que cet enlèvement devrait avoir lieu vivant de l'Église, ou bien est-ce que l'enlèvement peut avoir lieu après la mort des membres de l'Église?
Vous penseriez à la possibilité, s'il y avait une pensée de l'enlèvement dans ce verset, que la chose puisse être dite à l'Église de Philadelphie en vue de l'enlèvement 3 ans et demi ou 7 ans avant le jour du Seigneur.
Le sacrement préservé de tribulation.
Il me semble que les teneurs de l'interprétation, donc pré-tribulationniste ou tribulationniste, lorsqu'ils pensent à l'enlèvement de l'Église, pensent à l'enlèvement des vivants, à qui la tribulation est ainsi épargnée, et qui ne pensent pas à ceux qui sont dans les tombeaux à cette époque, qui certes sont enlevés aussi puisqu'ils ressuscitent premièrement, mais pour lesquels il n'y a pas le moyen là d'éviter la tribulation, puisque de toute façon ils l'auraient évité, étant dans l'état intermédiaire avec le Christ, sans le corps, mais avec le Christ. Alors, je ne vois pas que cela puisse être vraiment indubitable à l'auteur.
Oui, une question sur le fond, parce qu'on retrouve le problème tout au long de la Bible, dans la question de l'analogie de la foi et de personnages et de situations historiques qui sont annoncés à Christ et de ce qui vient, comme il n'y a pas toujours superposition exacte des deux cas qui prend l'image, ce qui nous permet de reconnaître que la situation précédente, hormis l'état où c'est annoncé nommément par le Seigneur, ou bien il y a après que ça complique la prophétie, quels sont les moyens qui nous permettent de reconnaître que cette situation-là est annonciatrice d'une autre, avec suffisamment de précision pour ne pas errer.
Oui, moi je crois que c'est un problème intéressant, que tu as tout à fait raison de souligner que lorsqu'il y a situation annonciatrice et événement qui lui correspond plus tard, ça ne colle pas sur tous les points. Une situation préfigurative n'est jamais exactement semblable dans un point à celle qu'on appelle la préfiguration. Mais le problème semble être ici que c'est un texte sur lequel on veut fonder l'idée de l'enlèvement avant la tribulation. Si on avait des preuves formelles ailleurs que la tribulation, bon, sera pas pour les chrétiens de la dernière génération qui sont tombés avant. Si la chose était déjà établie. Alors après cela, on pourrait dire, voilà une situation qui lui est comparable à certains égards, qui donc pouvait être annonciatrice au premier siècle de l'enlèvement des chrétiens à la fin des temps. On pourrait le dire une fois que la deuxième chose sera établie. Mais on ne peut pas s'en servir, me semble-t-il, comme fondation de la doctrine. On peut accommoder, à cause de ce fait qu'une situation annonciatrice n'est jamais semblable qu'à 60%, 70%, etc., à celle. On ne peut pas fonder sur un texte qui se rapporte à la figure, la doctrine même, concernant l'accomplissement. Il faut que pour l'accomplissement, on ait des textes directs et formels. Autrement, on ne sait justement pas ce qui joue et ce qui ne joue pas. Si on se base sur des textes qui concernent la figure, du moment que la figure ne vaudra pas à 100%, ne se reproduira pas à 100%, on ne peut pas fonder une doctrine solide.
Avant qu'on comprenne ça dans le langage symbolique, et donc non pas chercher forcément dans l'accomplissement littéral. Si on prend la démarche, de Lepage, tout à fait symbolique, et de reconnaître dans ces églises des périodes, il ne faut peut-être pas forcément non plus vouloir à tout prix chercher dans l'accomplissement historique le signe, un avant-coureur de ce qui est représenté.
Oui.
Je ne dis pas que c'est là un argument convaincant, je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas tellement convaincant non plus. Mais je crois que si on prend la démarche de chercher que les symboles, il ne faut peut-être pas s'attacher non plus à ce qui s'est passé réellement à l'église de Philadelphie.
Oui, mais ça vous prolongez exactement ce que j'essayais d'exprimer en réponse à Charles. Je crois que lorsqu'on a des preuves solides pour la thèse pré-tribulationniste, alors il est possible de voir un symbole, puisqu'un symbole est toujours différent de ce qu'il symbolise, de voir un symbole dans le fait que l'heure de la tentation n'a pas frappé l'église de Philadelphie comme les autres églises par exemple. Mais ça ne peut pas servir de base doctrinale pour la doctrine de l'enlèvement. C'est ça ce que je voudrais faire valoir. On peut trouver un symbole à la rigueur, j'en suis M. Pache, une fois qu'on a établi la doctrine de cet enlèvement avant la tribulation, mais tant qu'on ne l'a pas fait, ça reste en marge. Ça, c'est à propos donc de la première objection que j'ai de fait, la deuxième donc s'attachant au langage lui-même.
Pour en revenir à cet aspect historique des choses, il faudrait, je pense, essayer de comprendre comment les gens de Philadelphie comprenaient ce texte. Parce que pour eux, ça avait une dimension littérale, premièrement, et deuxièmement, après coup, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des lumières là-dessus?
Je ne pense pas qu'on ait d'enseignements extrêmement précis sur la manière dont cette promesse précise faite à l'église de Philadelphie s'est accomplie. Probablement, il a dû s'agir d'une fidélité sans grand problème pendant le temps de la tentation gnostique. Cette grande tentation sur le monde, c'est probablement la tentation du gnosticisme, et peut-être la tentation liée aux persécutions impériales aussi. Les deux pouvaient très bien aller ensemble, parce qu'il y avait une pression politique, la tentation de se glisser vers des doctrines paganisantes, le faux christianisme était aussi plus fort, ce qui permettait d'éviter la persécution la plus vive. Est-ce que cela a réalisé? Mais je suis dans l'ignorance quand même, dans un consistant très, très précis pour cette église de Philadelphie. Mais alors, le fait que la chose vise en premier lieu l'église de Philadelphie, qu'elle est toujours une portée symbolique pour la suite, ça, je crois que nous pouvons l'affirmer avec beaucoup de fermeté, en particulier par le fait qu'on a découvert que cette église forme un circuit postal pour l'Asie mineure. Ce ne sont donc pas des églises dont les noms simplement seraient repris, mais qui ne vaudraient que comme des symboles. Et il y a vraiment un message pour elles, ou à leur temple, qui désigne, dans certains cas, des personnes tout à fait précises dans l'église, cette prophétesse qui reçoit le nom de code de Jézabel, mais qui répond à tous les enseignements de Tyr, par exemple. Une situation vraiment très déterminée. cette église, une église réelle, avec un message déconcertant elle-même.
Et est-ce que c'est donc, si on réfère cette épreuve, donc cette tentation, à tentation gnostique, est-ce qu'on peut comprendre dans ce sens la suite qui dit l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la Terre? Ça paraît être d'une dimension plus cosmique.
Je pense que, vous posez la question de savoir comment les gens qui la décrivent pouvaient comprendre la chose. L'oïkouménèse, n'est-ce pas, ce qui est le terme employé ici, c'était le monde qu'ils connaissaient, c'était la terre de l'Empire gréco-romain. Je ne pense pas qu'ils aient envisagé des interdits. C'est ce monde-là qui est fait sur le domaine pour eux, et la tentation cosmique, et les persécutions aussi d'ailleurs, c'était répandu sur tout ce monde, c'était leur monde.
De toute façon, la compréhension de la dimension symbolique n'est pas quelque chose, justement, dans cette histoire des sept lettres, n'est pas quelque chose qui intervient après coup par une acrobatie des exégètes, mais s'il y a sept dans ce livre d'Apocalypse qui est si plein de symboles, c'est sans doute intentionnellement. Donc, lorsque Dieu inspire les écrivains et les gens de Provence, il introduit probablement à dessein une signification symbolique. À nous d'en comprendre le sens, comme nous sommes invités fréquemment dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas là disons, trouver dans ces sept lettres quelque chose de symbolique, il me semble qu'on est invité, et pas forcer le texte. Le problème, c'est de savoir si notre interprétation symbolique est correcte.
Oui.
Alors, il y a d'autres textes où on symbolise, qu'on spiritualise, etc., à tort ou à raison, je ne sais pas.
Et moi, je réponds à cela que donner un caractère symbolique au chiffre 7, ça, c'est sans doute très approprié. Ça convient aux gens de l'Apocalypse. Et le chiffre 7 évoquant l'unité dans la multiplicité, je pense bien que c'est l'église tout entière qui, à l'occasion de cette église concrète d'Asie mineure dont Jean avait la charge, est évoquée avec ses forces et ses faiblesses, avec ses facettes. Mais ce qui me paraît arbitraire, sans fondation dans le texte lui-même, et dans aucun point de l'Apocalypse, c'est l'idée que ces sept représenteraient des périodes successives de l'histoire de l'Église. Je ne pense pas que le chiffre 7 nous le suggère, ni que rien dans le texte nous le dise. C'est ça qui me paraît très bien aussi.
Oui, moi, je voudrais ajouter un autre aspect, c'est que quand on dit dans Jean 17, les gardiens du monde,
les
gardiens du mal, oui, c'est différent justement. Les gardiens du mal, c'est intéressant parce que ça semble pas vouloir dire les gardiens des persécutions. Or là, les gardiens de l'épreuve, est-ce que ça veut dire les gardiens du mal ou les gardiens de la persécution? Parce que si c'est les gardiens de la persécution, ça signifie un enlèvement corps et mien, il faut qu'il y ait une séparation totale. Si c'est les gardiens du mal, ça vient être présent, par exemple, à l'école du péché.
Oui et non. Je pense que le débat se situe d'abord d'un point de vue purement philologique. Quant au vocabulaire, sans des mots employés, sur le point de savoir si l'expression garder eux indique qu'il est dans le même monde. Alors, cette expression garder eux, qui ne semble pas l'impliquer dans d'autres contextes, et au Nouveau Testament, il y a un exemple, c'est Jean 17 qui oppose cette expression gardez-le à celle de t'enlever hors. Il paraît donc une chose quand même qui est très importante pour notre débat. Alors maintenant, il y a un deuxième aspect, il y a cette exégétique au-delà de la simple philologie, de savoir si le fait de garder de l'épreuve implique un enlèvement. C'est ça pour la question que tu poses. Et moi, il me semble qu'on ne peut pas affirmer que garder de l'épreuve peut signifier donner la force de supporter, peut signifier détourner les coups de ceux qui voudraient se précipiter contre l'Église, que ça ne signifie pas une translation être du lieu. Que garder deux ne signifie pas, même s'il s'agit de persécution, être transporté dans un lieu où on sera en atteinte. Il y a des moyens de garder qui sont assez divers. Ce qui, en plus, ça je voudrais dire ce premier point, mais c'est très intéressant. Très content, là nous faisons le travail très utile d'investigation et des manières même de raisonner sur ce qu'on est sur les textes. Le deuxième point, sur lequel je voudrais aussi mettre un certain point, c'est que le mot traduit point peut se traduire tentation aussi, ce qui rapproche de l'idée du mal de Jean 17. Mais, et même s'il s'agissait du sens épreuve, le mot a les deux sens. Alors, là, on est tout à fait en droit de choisir soit l'un soit l'autre. Même s'il s'agissait de l'épreuve, on croit pas qu'on peut dire garder de l'épreuve signifie passer hors du champ où elle se situe.
Pour les tenants de cet enlèvement, est-ce que, justement, il n'est pas lié à l'apparition, à l'émergence aussi de l'Antichrist? Et lié à sa présence même et à son action dans le monde et dans l'histoire et dans le temps à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça nous renvoie à la seconde épître des Thessaloniciens au chapitre 2, où Macôtre s'adresse aux chrétiens.
C'est le deuxième texte que je voudrais que vous étudiez. Je ne sais pas si c'est le signe providentiel qu'il faut que nous voyions. Non, nous avons dans ce deuxième passage, qui pense justement, mais ça paraît que le deuxième grand texte à étudier. J'ai repris ce premier, puisqu'il m'a semblé que ça n'avait pas paru totalement conclu en dernier, c'est en décembre. Mais ensuite, c'est 2 Thessaloniciens 2 qui sera le grand passage à étudier.
Et là, il me semble que c'est difficile de trouver un terme qui explique à la fois que nous sommes enlevés et que nous ne sommes pas enlevés. Parce que finalement, nous sommes enlevés d'une certaine manière des pièges de l'ennemi, mais nous ne sommes pas enlevés dans la mesure où nous en ressentons la spéculation. Disons que, je ne sais pas, c'est pas que l'éléphant qui reçoit une balle, il sait qu'il a reçu une balle, mais ça ne gêne pas parce qu'il a une fois assez dur.
Donc, ce qui m'a toujours gêné dans l'histoire des chrétiens qui sont enlevés au moment où ça ne gâche plus, ça devient pénible et douloureux pour eux, c'est que ça n'est pas la méthode générale de Dieu. La méthode générale de Dieu, c'est de préserver le gouvernement. Il ne se sert pas de la violence, il ne se sert pas des anges, des légions d'anges, tout ça, il se sert de ses témoins. Dans toutes les situations, et jusqu'à l'extrême limite. Et le Christ est ce témoin qui est allé jusqu'à l'extrême limite, et il me semble que nous sommes engrenés par le oui que nous lui avons dit et par la grâce qu'il nous a faite, à être témoin jusqu'à l'extrême limite. Et que tout ceci est contenu dans notre condition même de témoin de chrétien. Il y a quelque chose qui me gêne dans le fait que nous sommes enlevés à la dernière minute. Alors que Jésus a dit dans la parabole du Cyprès, il ne fallait pas chercher à arracher direct, il était ça. Jusqu'au moment de la moisson, ce sont les anges qui font la moisson des hommes, bel et bien. Les prévus du jugement dernier, ben, où, à ce moment-là, c'est le Seigneur qui sépare l'ivraie du bon grain. Mais jusqu'au bout, il y a le bon grain mêlé à l'ivraie. Or, cette interprétation-là me gêne parce que on retire le bon grain et il n'est plus là.
Alors ça, c'est un argument théologique, et puis il se fonde aussi sur un autre texte, celui de Matthieu 13, qui sort quelque peu de l'étude de Strict, Apocalypse 3. Est-ce que nous pouvons considérer que cette étude, bon, maintenant nous avons un peu décortiqué la difficulté, je ne sais pas, je vais discuter à l'analyse ici. Tout le monde voit bien les enjeux, le type d'argument, les critères à employer pour se déterminer sur Apocalypse 3.10. Alors je crois qu'on peut passer au second grand passage, qui est celui du second aux Thessaloniciens, chapitre 2. Je ne dirais pas que ce soit un texte là que les tenants de l'interprétation pré-tribulationniste invoquent pour le débat qui nous concerne. Alors nous faisons bien de le lire et d'essayer de l'interpréter en voyant quelle est l'interprétation que M. Pachon donne et comment nous pouvons essayer de serrer le sens du texte. Alors le premier chapitre de la seconde Thessaloniciens a déjà évoqué le thème du retour du Seigneur, il a été question de la souffrance des chrétiens et l'apôtre les a encouragés ceux qui sont jugés dignes parce qu'ils pensent eux-mêmes du royaume de Dieu, au verset 5, à encourager à prendre la consolation divine qui est juste de la part de Dieu, de rendre à ceux qui vous affligent l'affliction, et à vous qui êtes affligés, le retour avec nous lors de la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, où il va donner d'une part la vengeance de ceux qui désobéissent, et d'autre part être glorifié dans ses saints, etc. Ça, c'est le thème du premier chapitre. Un gros chapitre 2, juste comme je traduis très très littéralement, qui est traduit en biblique. Je vous demande, frère, au sujet de parousie, le mot le plus courant, bienvenue, de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de lui, avec lui. C'est particulièrement important d'avoir ce mot-là, parce que ça semble bien qu'il puisse viser que le sujet précis de l'enlèvement, notre rassemblement avec lui, c'est pour nous d'être joint à lui, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes enlevés. De ne pas vous laisser rapidement ébranler de l'intelligence, du bon sens, parce que c'est le mot, vous restez aux raisons de l'intelligence, qui fait rester de sang froid, mais donner droit, ni d'être troublé, que ce soit par une surprise, ou par une parole, ou par une lettre comme de nous. Dans l'esprit, comme je veux dire, une révélation prétendument un oracle prophétique, comme prophète dans une église, prétendait apporter une parole ou une épître comme venant de nous, là, je fais des écrits, des discours apostoliques. Comme si le jour du Seigneur était là, ou était très proche. Moi, ça me dit, là. De peur que quelqu'un vous égare, le même mot d'ailleurs que le serpent qui séduit Ève, de façon que quelqu'un vous séduise, d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord, littéralement, s'il ne vient pas, mais bien entendu, alors, les choses ne peuvent pas suivre, il faut que vienne d'abord, l'apostasie, et que l'homme de l'illégalité, l'iniquité, rejet de la loi, et son apocalypse soit dévoilé, soit révélé, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'exalte au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ou le culte, de sorte qu'il aille jusqu'à s'asseoir dans le trône de Dieu, se montrant lui-même comme Dieu, montrant lui-même qu'il est Dieu. Duquel vous vous rappelez que lorsque j'étais encore avec vous, ne vous rappelez-vous pas toutes les choses que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Vous savez maintenant ce qui le retient, un neutre, le retenant, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'unité, l'égalité, rejet de la loi, du même mot tout à l'heure, est déjà à l'œuvre. Il opère déjà. Seulement, le retenant, celui qui le retient, celui-là cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il soit enlevé du milieu. Alors, c'est une question un peu abrupte, on est très littéralement. Il y a quelque chose qui le retient, ou quelqu'un qui le retient, jusqu'à ce qu'il soit enlevé du milieu pour laisser paraître l'homme d'iniquité. Et lorsque l'illégal, c'est le mot qui correspond au terme tout à l'heure, l'inique, l'illégal, et alors sera révélé l'illégal que le Seigneur Jésus anéantira, par le souffle de sa bouche, l'esprit de sa bouche, en bien de manière, et il réduira à l'impuissance par le resplendissement de sa parousie, celui duquel la parousie, c'est le même mot, se fait selon l'énergie de Satan, partout miracles et signes et prodiges de mensonges, et partout les séductions de l'iniquité pour les perdus, ceux qui vont à la perdition, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas fait accueil à l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une énergie terrain pour qu'ils croient le mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont conclus à l'iniquité. Voilà ce grand passage. Donc vous voyez, il traite assez spécifiquement le problème de l'ordre des événements. Puisque lorsque Paul commence à dire, ne croyez pas que ce soit déjà là, au nom du Seigneur, pour le rassemblement entre lui, etc. Il faut d'abord qu'il y ait une apostasie, et alors l'apostasie, qui est l'apparition de l'homme d'iniquité, la révélation de l'homme d'iniquité, elle est retardée, bien que le mystère en agisse déjà, elle est retardée par quelque chose qui retient, ou quelqu'un qui retient. Il doit être enlevé du milieu pour que ce illégal, cet homme de l'illégalité, soit révélé. Et quand il sera révélé, le Seigneur Jésus interviendra par éclat de sa parole. Voilà le texte que nous avons donc dans la deuxième Thessalonicien. Alors je vous lis le commentaire que donne M. Page dans son livre de ce passage. Paul annonce l'apparition de l'Antichrist qui doit précéder l'avènement du Seigneur. Puis il ajoute, et maintenant vous savez ce qu'il revient, afin qu'il nous paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient est encore et disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira dans le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On s'est beaucoup demandé ce. Qui pourrait bien être celui qui le retient encore et dont la disparition doit permettre à l'Antichrist de se manifester. Voici parmi les diverses suppositions qu'on a faites, celle qui nous paraît la plus vraisemblable. L'Église est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3,16 et 2 Corinthiens 2,22. Lorsqu'elle aura été enlevée, le Saint-Esprit aura perdu son tabernacle ici-bas et il ne s'opposera plus à la ruée de l'erreur. Le mal alors sera déchaîné et l'homme de péché sera pour un peu de temps le maître apparent de la situation. Au moment d'abandonner l'humanité pervertie au jugement du déluge, Dieu avait solennellement déclaré « Mon esprit ne contestera pas ou ne restera pas toujours dans l'homme » Genèse 6,3. Si nous comprenons bien, le Seigneur ferait de même en s'éloignant de l'humanité apostate au moment de la grande tribulation. D'autre part, les chrétiens sont le sel de la terre, Matthieu 5,13. Il n'est pas étonnant que leur enlèvement précipite la complète décomposition du monde. Toutefois, n'oublions pas que même après le départ de l'Église et son temple, le Saint-Esprit agira encore parmi les hommes de bonne volonté. Pendant la grande tribulation, il sera répandu sur Israël pour l'amener à la conversion, Esaïe 39, 29, 59. Et nous savons que pendant la même période, une foule nombreuse d'entre les nations sera sauvée, Apocalypse 16. Or, il est impossible de croire le Christ sans l'aide du Saint-Esprit, Apocalypse 3. Il faudra donc que ce dernier continue sur la terre au moins une partie de son ministère. Voilà donc le paragraphe qui concerne ce passage dans le livre de M. Bach. Tout le monde a cette vision clairement dans l'esprit. Est-elle satisfaisante comme interprétation de ce texte? Il me semble qu'on peut désigner deux difficultés presque immédiates. Je vais dire deux choses. Donc, le texte de la seconde Thessalonicien et le texte du Pâche. La première difficulté, c'est que l'identification de ce qui retient, ce qui le retient avec l'Église, c'est une chose qui est une pure supposition sans appui dans aucun texte, sans problème. Ce n'était pas l'interprétation dans les cas de l'Église. Il y a eu deux interprétations principales, la vision là, principale en tout cas, a été que c'était l'Empire romain. La deuxième interprétation, qui est déjà attestée par les cas de l'Église, c'est l'idée que c'est la prédication missionnaire qui est l'élément retient. C'est la diffusion missionnaire dans toutes les nations qui doit être enlevée du milieu pour que l'homme d'iniquité ait sa pleine manifestation. Mais l'idée que ce soit l'Église comme telle n'a pas été supprimée à tous les temps modernes, et c'est une simple supposition. Donc c'est là qu'il y a une faiblesse, c'est pas un argument qui oblige à exclure l'anglais, mais il fondait une interprétation sur quelque chose aussi ténu, sans suggestion du tout dans le texte, que ce soit l'Église, c'est quand même un désavantage pour cette interprétation. Ça, c'est la première chose que je fais remarquer. L'idée que ce pourrait être l'Église n'a donc pas de preuve nulle part. La deuxième difficulté, quand même, me semble beaucoup plus sérieuse. Il me semble que l'ensemble du passage, de son préambule, sur lequel M. Pache ne s'arrête pas du tout, va contre l'interprétation qui voudrait que l'Église soit enlevée avant la manifestation d'Antichrist. Car pourquoi Paul parle-t-il à ses lecteurs de cette venue de l'Antichrist? Pour leur dire, ne croyez pas que ce soit déjà arrivé, il faut que l'Antichrist soit venu avant. Paul leur dit, ne croyez pas au sujet de la parousie de notre Seigneur, du jour du Seigneur, de notre rassemblement auprès de lui. Paul ne fait là aucune distinction entre ces événements. Il leur dit, ne croyez pas que ce soit déjà là. En effet, il faut que d'abord vienne leur iniquité. Donc ça semble pouvoir dire, l'enlèvement, notre rassemblement auprès du Seigneur va venir après l'homme d'iniquité. Attendez de voir l'homme d'iniquité pour savoir que ça sera à ce moment-là, le jour du Seigneur. Si l'Église était enlevée avant le jour, avant la grande manifestation de l'Antichrist, ça ne durerait plus, puisque précisément notre rassemblement auprès du Seigneur serait avant le signe que Paul indique pour dire qu'il faut que ça se passe avant. Il me semble que l'interprétation pré-tribulationniste que M. Pache nous propose est une interprétation qui va juste contre le raisonnement de l'apôtre, qui inverse précisément les choses. Paul parle de l'Antichrist pour leur dire, il faut qu'il vienne avant, attendez de voir, ça va, que le jour du Seigneur va être là. Et M. Pache nous suggère qu'au contraire, l'Église doit être enlevée avant l'Antichrist. Ça semble juste l'opposé. Alors je crois que M. Pache ne s'explique pas dans ce paragraphe très en détail, et s'est atténué, d'ailleurs, dans son enseignement oral, la difficulté qui se présente, en suggérant que c'est au milieu, c'est ni tribulationniste, c'est au milieu du temps de l'Antichrist que se situe l'enlèvement de l'Église. Mais il me semble qu'il ne gagne quand même pas grand-chose par rapport à la difficulté principale que je viens de mentionner, par cette atténuation. Parce que s'il dit que c'est au milieu de ce règne de l'Antichrist, il est obligé de dire que le règne de l'Antichrist se décompose en deux parties, peut-être tranchées. Une première où l'Antichrist fait des sourires, il a l'air très bien, etc. Et puis une deuxième où il se tourne en persécuteur. Mais alors la grande tribulation, c'est seulement la deuxième partie. La manifestation de l'Antichrist comme homme d'iniquité, c'est seulement la deuxième partie. Or, c'est précisément cela que Paul donne comme signe que les chrétiens doivent voir avant d'être enlevés. Si M. Pache dit, oui, mais ça a déjà commencé avant l'enlèvement de l'Église, alors son argument sur la nécessité que l'Église soit enlevée pour être ôtée du milieu tombe. S'il dit au contraire que ça n'a pas commencé, alors l'argument de Paul ne peut plus jouer. Donc il ne me semble pas qu'il gagne grand-chose avec la thèse mi-tribulationniste par rapport à celle des pré-tribulationnistes. Puisque, de toute façon, il ne peut pas en même temps suggérer que c'est l'Église qui doit être enlevée pour que l'Antichrist paraisse, l'apostasie se développe, et faire justice à l'argument de Paul qui dit l'apostasie doit se produire avant ce dont je vous parle, à savoir le jour du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui. Alors, je ne réussis pas à voir vraiment comment on peut réconcilier ce texte de la seconde aux Thessaloniciens avec le schéma pré-tribulationniste. Il me semble vraiment que ceux des Thessaloniciens 2, le texte qui s'y oppose le plus fort, alors que c'est le texte qui s'intéresse le plus explicitement au rapport chronologique des événements. Alors maintenant, donc, j'ai dit, on va peut-être redévelopper, mais je pense qu'il faut réactionner.
Oui, une chose qui me paraît plus dans tout ça, c'est dans quelle mesure l'apparition de l'homme d'iniquité crée un ordre totalement nouveau. Puisque finalement, actuellement, nous sommes dans la tribulation.
On peut jouer sur les mots en disant que la révélation viendra après. Mais elle est aujourd'hui. Le chrétien derrière les autres fers, ils en sont persuadés. Alors, et donc, que veut dire ce contexte être gardé du mal? Et qu'apportera par rapport à la présence du mal aujourd'hui et l'action du mal sur les chrétiens, qu'apportera la venue des autres iniquités? Est-ce que ça sera un ordre nouveau? Alors, dans ce cas-là, il faut effectivement qu'il y ait une cassure dans le temps, ou bien ça sera quelque chose de progressif. C'est-à-dire que, disons que, de la même façon qu'aujourd'hui, on voit l'emprise de plus en plus du communisme sur le monde, en parallèle, on va dire que le mal s'étend.
Moi, je crois que ce que tu évoques là correspond tout à fait à ce que dit Paul dans les versets 5 et suivants, le fait que le mystère de l'Église est indéfectible. Il me semble que Paul est très soucieux de montrer à la fois qu'il y a continuité entre cette période finale et notre temps présent, en disant que le mystère de l'Église qui sera là, même floraison, pour dire, agit déjà. Donc il n'y aura pas une rupture totale entre notre temps et ce qui vient. Et d'autre part, il est quand même soucieux de tracer une limite assez précise, puisqu'il dit qu'il faut que révélation, apocalypse de cet homme d'iniquité, qu'il aura sa parousie, deux termes qui sont employés pour Jésus-Christ, mais aussi pour cet homme d'iniquité. Et l'idée, là, qu'il sera comme le personnage du Christ, c'est pour ça que je crois qu'on peut l'appeler l'Antichrist. Il doit être révélé comme le Christ, et il a sa parousie, parousie selon l'énergie de Satan. Donc ça suggère quelque chose quand même d'assez déterminé et précis, et pour que ça arrive, il faut que ce qui retient soit enlevé du chemin, du milieu, il n'y a pas du chemin. Donc, il me semble que Paul, à la fois, nous montre qu'il y a continuité, comme tout le souligne, mais il nous avertit en même temps qu'il y a une limite assez nette qui sera franchie, et que c'est le franchissement de cette limite qui donne comme un signe temporel à ses lecteurs, un signe temporel qui les avertira que le jour du Seigneur alors arrive immédiatement.
Alors, est-ce qu'on peut définir justement ce qui retient? Oui, qui c'est?
Alors, ça, c'est pas notre problème. Enfin, ce n'est plus le problème de.
Parce que ça semblerait un objet temporel. Ça s'engage dans le temps.
Oui. Ah oui, c'est certainement quelque chose qui se produit dans le temps, de cette rétention, puisqu'elle doit être enlevée dans le temps pour que Dieu, révélation parousière de l'homme d'iniquité, et que le mystère d'iniquité donc est totalement un nouveau tour. Mais, donc pour le point que nous débattons de doctrine sur la révélation, il suffit pour le moment de montrer que la doctrine pré-tribulationniste ne s'accommode pas bien de ce passage. C'est une question exégétique distincte de celle de la nature de ce qu'il retient. Alors moi, je vais vous dire ce qui me paraît à moi, pour entrer dans le détail de la démonstration, de la conclusion, ce qui me paraît à moi l'interprétation la plus plausible, de loin, c'est l'interprétation missionnaire. Je crois que ce qui retient, c'est la diffusion de l'évangile dans le monde et le décret divin et peut-être un ange divin qui a en charge spécialement de permettre l'évangélisation du monde. Pour me fonder, pour affirmer cela, je me fonde essentiellement sur le fait qu'ailleurs, c'est le seul fait dont il soit dit clairement qui doit se produire avant que vienne la fin, pour que l'évangélisation du monde puisse se déployer. C'est un bon fait pour faire la nation. Et je crois que nous pouvons assez facilement comprendre que si Satan avait libre cours, et si vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si le mystère d'iniquité qui est à l'œuvre dans l'histoire vraiment se déchaîner, eh bien aucune évangélisation serait possible. La mission serait vraiment rendue totalement impossible dans le monde. Si nous pouvons faire des réunions, si nous pouvons parler sur les ondes, il faut vraiment que le mystère d'iniquité soit fermement retenu. Et je pense que c'est lorsque Dieu jugera que le nombre des compagnons de service est complet, le nombre des élus qui ont décidé au salut est atteint, alors qu'il cessera de retenir que l'évangélisation ne sera plus possible et qu'il n'y aura plus pour les chrétiens que persécution dans un régime totalitaire de glorification de l'homme en tant que Dieu. Ça, on le sait le plus possible, cela. Et alors, personnellement, nous en reparlerons au moment de l'étude de la question du millénium. Je vois exactement la même chose dans l'Apocalypse 26. On va pas faire de confirmation. On va voir que Satan est lié, ça correspond au mystère de l'iniquité retenu, afin qu'il ne séduise plus les nations, c'est-à-dire qu'il permette l'évangélisation des nations. Mais ça, je pense qu'il faudra y revenir au moment de l'étude de la question du millénium, puisque ça touche pas davantage la question du millénium que le sexe qui est en cause d'un.
Comment est-ce que cette invitation missionnaire peut ne plus se produire alors que ceux-là même qui tâchent, qui vivent cette évangélisation sont déjà dans le monde?
Je crois que ce sera par l'imposition d'un régime totalitaire qui nous gênera d'une manière quasi totale. C'est comme ça qu'on peut le concevoir.
Et même sans parler, on peut toujours le.
Oui, alors un témoignage, je crois que ça ne cessera pas, justement, mais ce témoignage sera pratiquement celui du martyr. Un martyr qui sera, je pense, pour tous, la décapitation du témoignage de Jésus, mais cette souffrance sans parole possible, mais il n'y aura plus de prédication. La prédication missionnaire renvoie un apôtre qui diffuser la parole, je pense que cela sera empêché et que c'est vraiment un des signes de la proximité des temps. C'est que nous voyons dans notre siècle pour la première fois l'élaboration de techniques qui pourraient effectivement aboutir à un passage. On peut dire que les siècles ont précédé le nôtre. On ne connaissait pas de techniques d'État suffisantes pour le musellement de toute prédication, mais qu'aujourd'hui, ce serait possible.
C'est possible. C'est la démonstration largement faite au détriment de millions d'êtres humains que la propagation d'idées est impossible. Elle est complètement empêchée. Elle ne peut se faire que dans un raisonnement personnel extrêmement limité. Je crois que nous ne nous rendons pas compte à quel point la liberté d'expression est quelque chose d'important dont nous bénéficions pour la propagation de l'Évangile. Mais que serait par exemple une fille et une fille si on ne pouvait plus se réunir ni dimanche, ni en semaine pour étudier la Bible, comme le faire, ni donner des traités, ni prévoir les campagnes d'évangélisation, tout ce que nous pouvons faire? Ce serait fort.
Complémentaire.
Donc, en ce qui concerne ce qui le retient, voilà l'interprétation qui me paraît la plus possible. Mais, pour revenir donc au problème du rapport entre tribulation et revêtement, donc, on dit, donc la conclusion à laquelle je crois que je viens, deux Thessaloniciens 2 me paraît peut-être plus probant, et je n'ai pas trouvé jusqu'à présent l'interprétation pré-tribulationniste qui puisse s'en tirer. Tourner ce texte.
Est-ce que l'ennemi tribulationniste ne se rapproche pas à un texte dans Daniel, il me semble, où il est parlé de pacte de traité que ce chef ferait, ou pas au bout de l'expression « le temps des temps, le matin des temps », il y a tout des regroupements de chiffres qui se produisent là, qui font que, dans un premier temps, il montre justement un visage très conciliant, et puis, dans un deuxième temps, à peu près à mi-course, il inverte la vapeur et
Oui, alors, c'est en général la prophétie des septembre et septembre, c'est aujourd'hui semaine, d'Almena, qui sert bassement à ce schéma que j'ai évoqué tout à l'heure, des premières parties du règne de l'Antichrist qui seraient favorables et souriantes, une deuxième partie qui deviendrait assez. C'est ce qui est dit de la 70e semaine à la fin de l'année 9. Alors, je ne sais pas si nous avons maintenant pas le temps de considérer aujourd'hui maintenant de façon exégétique. Je veux simplement signaler que c'est une appellation à prendre une deuxième. La première, c'est de séparer la 70e c'est même la diète de la vôtre, alors que rien dans le texte ne le suggère, justifie telle séparation dans le temps, c'est quelque chose qui paraît un peu arbitraire par rapport au texte. Ça, c'est la première faiblesse. Personnellement, je ne crois pas qu'il faut séparer la diète de la vôtre. Et la deuxième, alors, c'est que grammaticalement, le sujet le plus proche des verbes de Jésus, dernier verset de Isaïe 9, ce n'est pas le chef que l'on pourrait représenter pour l'identifier avec un Christ, c'est le Christ. Le sujet de début de ce dernier verset, si on se reporte à la grammaire, on se reconnaît que la grammaire hébraïque n'est pas très rigoureuse, ne suit pas des règles très rigides. Hein, mais enfin, si on suit cette règle, le prince qui vient et qui détruit la ville n'est pas en position de sujet dans les phrases de tout le développement. Le dernier sujet mentionné, qui peut être donc le sujet au début du dernier verset, c'est le Messie qui sera retranché. Et l'interprétation que je suis, pour ma part, pas la pensée du tout, c'est une interprétation classique, c'est que le sujet de « il fera prévaloir l'alliance avec les nombreux », c'est le Christ. Donc cette alliance, ce pacte, je disais tout à l'heure que l'interprétation du pacte antifère à un pacte politique que l'Antichrist conclurait avec Israël, pour moi c'est pas du tout ça, c'est la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ institue avec les nombreux, c'est un mot qui vient de Ésaïe 53 et qu'on retrouve dans l'Évangile, Matthieu 28, c'est l'alliance qui fait prévaloir dans sa mort même, avec les nombreux. Pour ça, c'est une interprétation classique, mais je mentionne, sans plus. Alors, je crois que nous avons vu, quand même, sur ce premier chapitre, sur la tribulation de l'événement essentielle, et que nous pourrons aborder peut-être le sujet du millénium la fois prochaine, puisque vous avez vu la conférence de M. Paul, alors nous pourrons aborder la fois prochaine.
Je me demandais simplement si on ne schématise pas trop en essayant de trouver une cause, disons, ponctuelle à cette notion de celui qui le retient. Est-ce que ce n'est pas plutôt un rapport de force?
Moi, je crois même que celui qui le retient peut se référer à l'ange mentionné dans l'Apocalypse 20. Parce que c'est un ange qui dit Satan, je pense que ce pourrait être cet ange qui est désigné au masculin. Mais
d'accord avec moi pour dire que ça, c'est pas certain, c'est uniquement à cause du rapport avec la voie traditionnelle que je dis ça. Moi, ça me gênerait parce que je ne vois pas comment l'ennemi pourrait agir alors qu'il agit. Et s'il n'agit pas plus, c'est parce qu'il y a une autre force. Non, si dans certains pays le régime n'est pas renversé, c'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en gouvernance, etc. Ils sont là et c'est pas de mort pour le problème.
Mais c'est des forces d'abord dans les yeux célestes, et je pense que les forces sont vraiment fausses, comme Daniel dit, c'est super. Moi, je parle de Perse.
Je pense que les forces numériques, elles existent par exemple en France, mais ce qui sortira des urnes ce soir, j'ai l'impression que le travail qui se fait dans les cœurs et les mentalités dans les études profondes, ça relève de ce combat spirituel, et pas simplement d'une art politique.
Bon, je crois qu'il nous faut lever la séance, vous êtes d'accord, donc la fois prochaine.